Bonjour à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, crise aux urgences, un chèque peut-il tout résoudre ? On ne compte plus le nombre de témoignages et de lettres ouvertes publiées par le personnel soignant des hôpitaux de France et de leurs services d'urgence. En voici un parmi les plus récents, celui des médecins de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Dans un courrier adressé à l'Agence régionale de santé, ils parlent d'abord de leurs urgences saturées. En 6 mois, 14 de leurs collègues ont démissionné sur 26, remplacés par des vacataires, ce qui empêche, disent-ils, d'avoir une continuité des soins. Ils témoignent aussi de la désorganisation des autres services, car faute d'argent, impossible d'honorer leurs dettes, il faut harceler les laboratoires pour négocier une nouvelle commande de médicaments. Même chose pour les gants, les collecteurs d'aiguilles ou le papier toilette. Même le garagiste du coin ne veut plus réparer les véhicules du SAMU. En ce long week-end du 15 août, les hôpitaux gèrent leurs urgences jour après jour, accueillent le mieux possible les patients qui se présentent. Parfois un toutes les 3 minutes, comme dans cet hôpital du Var où le journal Le Monde s'est rendu la semaine dernière. De nombreux services d'accueil sont encore en grève, 195 selon le ministère de la Santé, qui affirme par ailleurs que les premières mesures prises par Agnès Buzyn se sont traduites dans les faits, je cite, notamment 15 millions d'euros destinés à renforcer les effectifs pendant l'été. Alors la crise aux urgences, un chèque peut-il tout résoudre ? Nous recevons 4 invités pour en parler jusqu'à 19h. Bonsoir Hugo Huon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes infirmier au service d'urgence de l'hôpital Lariboisière, c'est dans le nord de Paris. Et c'est, dit-on, l'un des plus chargés, des plus difficiles de la capitale en ce qui concerne ces urgences. Et vous êtes, Hugo Huon, le président du collectif Interurgence. Vous êtes ici en studio avec Frédéric Valtoux, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la Fédération hospitalière de France. Également Emmanuel Loeb, président du syndicat Jeunes médecins. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Voilà pour les acteurs de l'hôpital et de la santé. Et vous, bonsoir Fanny Vincent, notre sociologue jusqu'à ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous travaillez particulièrement sur le temps de travail à l'hôpital et sur les effets des réformes sur les conditions de travail. Vous avez coécrit La case du siècle à propos des réformes de l'hôpital public avec Frédéric Pierru et Pierre-André Juven aux éditions Raison d'agir. Voilà, alors merci à vous quatre d'être avec nous en ce 15 août. Hugo Huon, quelle nouvelle du terrain en plein milieu de l'été, combien de personnel en grève aujourd'hui, ou enfin, faites-nous remonter ce que vous savez de ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux de France.
Oui, alors sur le nombre de sites en grève, le collectif Interurgence en recense aujourd'hui 218.
Donc un peu plus que ce que dit le ministère de la Santé, 195, nous a-t-on dit hier.
Un peu plus que la DGOS, après il y a des services à enlever sur la carte et d'autres à rajouter, donc on est environ sur ce chiffre-là. Donc c'est intéressant que la DGOS sorte enfin du silence hier pour annoncer les 195 services, un chiffre qui est finalement assez proche de celui du collectif. Et donc pour faire un peu de rhétorique, on pourrait se dire que si on a fait un travail sérieux au niveau de la coordination et du recensement, les mesures et les revendications qu'on porte devraient être considérées avec tout autant de sérieux.
La PHP annonçait, donc c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris, annonçait officiellement la semaine dernière que 7 hôpitaux parisiens étaient sortis de la grève, mais pas Lariboisière.
Non, pas Lariboisière. Pour revenir sur la PHP, la DGOS, comme hier, ils disent aussi que localement, les situations étaient réglées.
La DGOS, c'est les services du ministère de la Santé.
Le ministère de la Santé. J'ai ramené deux petites situations, si on a 2 minutes, qui sont déroulées cette semaine.
Vous en avez 45.
La première, dans un hôpital du Nord parisien, où ce week-end, il y avait 7 infirmiers en poste au lieu de 12, dont une infirmière à l'accueil au lieu de 3 normalement. En l'état, le temps d'attente avant de voir une infirmière à l'accueil était de 40 minutes en moyenne, alors que les recommandations des sociétés savantes disent qu'il faut être vu entre 5 à 10 minutes. Il y a un patient qui se présente, qui attend 40 minutes et qui tombe dans le coma. Les premiers gestes d'urgence sont réalisés et il finit en réanimation. Là-dessus, l'encadrement commence par charger l'infirmier d'accueil en disant qu'il a mal fait son boulot. Donc on l'excusera, cette pauvre fille de 23 ans, d'avoir fait le travail de 3 toute seule. Et ensuite, il la rassure en disant que l'affaire sera étouffée, que c'est pas un problème. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que ce patient est SDF et que donc il y a peu de risque de recours au pénal. La deuxième situation, elle vient de mon hôpital. En fait, on a aux urgences, on a ce qu'on appelle des unités d'hospitalisation de courte durée. UHD, c'est les services tampons entre les urgences et le reste de l'hôpital, où les patients restent 24 à 48 heures pour surveillance avant de soit repartir, soit être hospitalisés dans les services. Là, cette semaine, on avait encore un patient qui vient de sortir hier, au bout de son 56e jour à l'UHD. 56 jours, pourquoi ?
On l'avait oublié ?
Alors non, le problème, c'est que ce monsieur est SDF, amputé des deux jambes, et que personne n'en veut. Donc ça, c'est une réalité de l'hôpital sur les histoires de durée moyenne de séjour, de tarification à l'acte et de quantité de durée à l'hôpital. On peut se dire que 55 jours, c'est 55 personnes qui auraient pu avoir un lit chaque nuit aux urgences. Voilà.
Une question, Hugo Huon, est-ce que vous avez été réquisitionné pour assurer le service minimum?
Non,
l'été.
Dans la plupart des services, en fait, le tableau d'effectifs minimum fourni par la direction des soins, donc c'est le tableau qui est censé dire combien de personnes il faut pour assurer le minimum de sécurité des soins, c'est bien souvent les effectifs du quotidien.
Frédéric Valletoux, le ministère de la Santé a dit hier donc dans ce communiqué assez long que dans certains établissements en France, des négociations locales avaient débouché sur des protocoles de sortie de grève. Alors dans 28 établissements d'après le ministère, dont 7 à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais aussi à Caen, à Rodez, à Neuilly. Qu'est-ce que c'est que ces protocoles de sortie de crise? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les directions négocient directement avec les salariés, mais quoi?
Dans un hôpital, les directions ont une autonomie de gestion. Et il peut y avoir des conflits qui se résolvent si c'est localement la situation évolue et si les deux parties estiment que effectivement aujourd'hui un mouvement de grève ne se justifie plus. Mais comme ça vient d'être dit, il y a des protocoles qui sont signés dans certains établissements, il y a des établissements qui sortent, enfin des services d'urgence qui sortent de la grève, il y en a d'autres qui y rentrent. Chez moi, en Seine-et-Marne, l'hôpital de Provins n'était pas en grève jusqu'à ces dernières semaines. Et depuis quelques jours, ils sont mis en grève aussi aux urgences. Voilà, donc ça fait, vous voyez, c'est un jeu incessant. En ce moment, la situation est très tendue. Et évidemment qu'il y a certains cas qui peuvent donner lieu à des protocoles, d'autres où au contraire la situation se tend. Il faut retenir, je pense, l'idée qu'autour de 200 services d'urgence, c'est beaucoup.
Et sur la situation, enfin les conséquences de tout ça aussi sur l'accueil des patients et ce que vient de raconter Hugo Huon, est-ce que les personnels des établissements, les directeurs en l'occurrence, vous font remonter de telles situations? On dit parfois que les brancards oubliés dans les couloirs, c'est le miroir grossissant des médias, en fait, que c'est exagéré, mais qu'est-ce que vous savez là de ce qui est en train de se jouer en ce moment?
La situation est tendue, j'allais dire, elle est chaque année un peu plus tendue et elle est chaque année dans l'année. On sait que la période du mois d'août, comme on sait que la fin du mois de décembre entre Noël et jour de l'an, sont des moments où c'est, j'allais dire, la tension est extrême. Le problème, c'est qu'un élastique qu'on tend de plus en plus l'hôpital. La situation sociale à l'hôpital, c'est ça, s'il y avait une image à prendre. On tire sur l'élastique, pour l'instant ça tient. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucun cas de patient à qui on dit « Écoutez, on est en grève, on est débordé, on vous prend pas. On va vous faire attendre, on vous prend dans des conditions qui sont, pour le personnel, souvent très difficiles. » Mais à l'arrivée, l'hôpital continue sa mission de service public, qui est une mission de soins et de prise en charge. Mais effectivement, dans des conditions dégradées. Mais bon, moi, j'insiste sur une idée, j'espère qu'on en parlera. La crise de l'hôpital, la crise des urgences, c'est pas la crise de l'hôpital, c'est la crise du système de santé. Et il pèse sur l'hôpital et sur les urgences, bien d'autres problèmes. Et
on va bien sûr en parler pour rester encore un tout petit peu sur le témoignage de ce que vous avez vu là ces derniers jours cet été dans les hôpitaux de France. Hugo Huon, est-ce que vous, à la Riboisière, vous avez été reçu par la direction? Est-ce que la PHP vous a reçu comme ça a été le cas donc dans certains établissements français?
Alors la PHP, c'est une situation particulière parce que vous avez des directions locales et puis un pilotage central. On a été reçu au tout début du mouvement de grève par la direction locale, mais il faut savoir que nous, on est dans un mouvement social depuis un an, donc on a déjà beaucoup fréquenté la direction qui nous connaît, qui nous laisse un peu faire notre tambouille dans notre coin en se disant qu'on reviendra quand on aura terminé, parce qu'ils comprennent qu'il y a des enjeux qui sont au niveau national et qu'eux ne peuvent pas régler. Après, oui, on a rencontré le DRH de la PHP à de nombreuses reprises, puis Martin Hirsch, qui a fini par faire des propositions qui paraissent satisfaisantes sur les effectifs et la rémunération, en tout cas pour reconnaître la spécificité du travail aux urgences. Après, la question du salaire paramédical reste encore à aborder, mais en tout cas sur les effectifs et la rémunération aux urgences, c'est satisfaisant. Ensuite, pour ce qui concerne les patients, il n'y a pas grand-chose qui a changé à l'heure actuelle.
Alors, sur les effectifs, les rémunérations, au niveau national, le ministère de la Santé a encore annoncé hier que les premières mesures promises par Agnès Buzyn s'étaient traduites dans les faits. Donc, vous devriez être en mesure d'en témoigner. 15 millions d'euros pour renforcer les effectifs pendant l'été. Fanny Vincent, vous qui travaillez sur les questions d'organisation dans les hôpitaux, 15 millions d'euros pour renforcer les effectifs. On a une idée de combien ça fait de personne, si c'est suffisant ou pas?
Moi, je ne suis pas forcément la mieux placée pour répondre à cette question. Le collectif Interurgence avait fait un calcul, je crois, ça correspondait à peu près à un poste ou un demi-poste par service pour le temps de l'été. Donc c'est vrai que c'est quand même assez peu et largement en dessous de la problématique et de l'ampleur de la crise, s'il faut utiliser ce mot-là, dans les services d'urgence et à l'hôpital en règle plus générale. Et surtout, 15 millions, il faut le mettre en regard avec les dépenses de l'hôpital aujourd'hui et ce que représentent les soins hospitaliers. Je crois qu'on est autour de 70 ou 80 milliards d'euros, donc 15 millions, c'est vraiment pas grand-chose. Vous les avez vus arriver dans les hôpitaux, ces effectifs, Hugo Huin ?
Oui, si je peux rebondir, parce qu'on a des groupes de discussion sur le national, et non, pas tellement. Et en fait, ça s'explique assez simplement. Enfin, vous prenez Agnès Buzyn qui annonce ses 15 millions au 15 juin. Vous prenez les directeurs hospitaliers qui doivent remplir des dossiers CERFA avec pièces justificatives, les envoyer à l'ARS, sauf que la secrétaire... L'Agence régionale de santé, sauf que la secrétaire est en vacances à ce moment-là. La secrétaire revient, elle lit le dossier, elle renvoie à la direction. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, cette semaine, Brest a eu ces chiffres-là pour la direction, a eu le montant de l'enveloppe ARS au 14 août. Donc, les directions, elles font quoi en attendant? C'est-à-dire que soit elles avancent les frais, mais sans assurance de se faire rembourser. Et dans le contexte de restrictions budgétaires qu'on a aujourd'hui, je pense qu'elles sont très frileuses à le faire. Soit elles ne font rien.
Mais soit elles ne font pas que avancer les frais, mais elles donnent, puisque apparemment, certaines agences régionales de santé ont pris sur leurs propres fonds pour doubler la mise de ce qui était proposé par le ministère. On parle de la région Grand Est, Pays de la Loire, Frédéric Valtoux, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Des ARS peuvent vraiment mettre la main à la pâte?
Des enveloppes qui permettent un peu, on va dire, de mettre de l'huile dans les rouages, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire d'accompagner des évolutions des projets locaux ou de résoudre des situations de tension ici ou là. Donc elles peuvent accompagner, mais comme ça vient d'être dit, une enveloppe qui est annoncée le 15 juin, il aura fallu que ce soit effectif, mais quand je dis effectif, c'est-à-dire que les personnels arrivent soit dans les services au 10 ou 15 juillet, ce qui est évidemment impossible. Donc là, l'été se termine, les gens vont rentrer de vacances, il va y avoir un peu moins de tension sur les effectifs, peut-être un peu moins de pression aussi en termes d'activité dans les services d'urgence, et c'est à ce moment-là que l'aide va arriver. Donc vous voyez, bon, on peut pas dire que c'est rien, parce que c'est toujours 15 millions avec quelques effectifs ici ou là, mais si je prends l'hôpital qui est le mien, donc moi je suis maire de la ville de Fontainebleau, pour faire tourner les urgences, 41 médecins, on en a 31 titulaires, on en a moins en ce moment parce qu'il y a des vacances aussi. Enfin, les hospitaliers sont comme tout le monde, ils prennent leurs vacances et quand ils ont des enfants plus tôt pendant les vacances scolaires. Donc, on peut pas, c'est pas un effectif en plus qui va venir régler la situation. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est en situation de pénurie dans beaucoup des services à l'hôpital. C'est pas les 15 millions, pour répondre à la question de votre émission, c'est pas un chèque qui va changer quoi que ce soit la situation d'aujourd'hui.
Alors 15 millions d'euros qui sont en fait une partie de l'enveloppe de 70 millions d'euros qu'Agnès Buzyn avait annoncé en juin vouloir débloquer. Est-ce que 70 millions c'est le budget de la santé qui augmente, Fanny Vincent, ou est-ce que c'est une réorganisation du système qui permet de rediriger de l'argent public vers certains services, donc au détriment d'autres, quoi, de déshabiller Paul pour habiller Jacques?
C'est un peu ce que disent les acteurs sur le terrain, c'est-à-dire que le problème c'est qu'on est aussi dans une enveloppe qui s'appelle l'ONDAM, qui est une enveloppe fermée. Alors certes, elle a été revalorisée au mois de septembre, au moment du plan de financement de la sécurité sociale et à la fin de l'année, mais grosso modo, on reste dans un plan où les dépenses qui sont consacrées à la santé augmentent moins vite que les besoins de santé, et donc ce que disent les soignants des urgences notamment, c'est qu'on va prendre aux autres pour donner aux urgences, et en fait on ne pose pas la question véritablement de qu'est-ce qui est à l'origine de ces problèmes, et on ne résout pas la question du manque de moyens qui est consacré à l'hôpital, et c'est vraiment le fond du problème.
Frédéric Valtoux.
Oui, mais on est dans une logique où de toute façon depuis, on va dire une dizaine d'années, on pourrait remonter peut-être plus, mais au moins depuis une dizaine d'années, les charges des hôpitaux, pour ne parler que des hôpitaux, augmentent plus vite que leurs recettes. Et donc ça veut dire que chaque année, on demande aux hospitaliers un peu plus d'économies. C'est comme ça, les charges hospitalières, selon les années, elles augmentent entre 2,5%, 3%, un peu plus parfois, parce que le budget d'un hôpital, à 70%, c'est la masse salariale, hein, c'est les charges de salaire. Donc parfois, il y a des mesures statutaires, donc il faut... Il y a une évolution qu'on sait assez prévisible, hein, du budget des hôpitaux, et en face, la nation, l'État, puisque c'est voté, le plan de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est voté par le Parlement, ne met pas les crédits crédits qui sont nécessaires. Donc, quoi qu'il arrive, il faut de toute façon, et c'est ce que font les hospitaliers, hein, 7 milliards d'euros d'économies sur 10 ans, c'est l'effort qu'ont fait les hospitaliers pour s'adapter, pour serrer la vis, pour réorganiser, pour... La réalité, c'est celle-là.
Voilà, vous parlez de la différence qu'il existe entre les dépenses et les recettes de ces hôpitaux. Emmanuel Loeb, jusqu'à présent, je me suis moins tournée vers vous parce que, en tant que président du syndicat Jeunes Médecins, vous ne portez pas la voix de l'hôpital, mais vous avez évidemment un regard très intéressant à partager avec nous et avec nos invités sur le fonctionnement global du système de soins et comment peut-être soulager l'hôpital, les urgences en réorganisant bien sûr la ville. Et concernant les recettes de l'hôpital, le rapport de la Cour des comptes qui a été publié en février dernier, que vous connaissez tous très bien, disait que l'afflux aux urgences permettait aussi aux hôpitaux de dynamiser leurs recettes. Et qu'à chaque fois qu'un patient est accepté aux urgences, l'établissement reçoit un forfait et que forcément tout ça n'encourage pas à les renvoyer vers la médecine de ville. Est-ce que vous pensez, vous, Emmanuel Loeb, que l'idée d'une prime de réorientation qui serait versée aux urgences à chaque fois qu'elle redirige un patient vers un généraliste, la proposition d'un député de La République En Marche, Olivier Véran, peut être une solution pour commencer à entrer dans le débat de soulager les urgences en examinant toutes les dernières propositions et tout ce qui s'est dit dernièrement sur le sujet.
Merci. Tout d'abord, je tiens à dire qu'on est solidaire du mouvement et du collectif Interurgence parce qu'on est au quotidien avec eux dans les services d'urgence, mais aussi dans l'ensemble des établissements de santé publique, hein, parce que il y a la gestion des urgences, puis après il y a la gestion entre guillemets de l'aval, c'est-à-dire que une fois que les patients sont arrivés aux urgences et que certains nécessitent d'être hospitalisés, et il faut que derrière il y ait des services qui suivent. Et le problème, c'est que souvent les services ne peuvent pas suivre, parce que dans les services aussi, comme on dit dans les étages, souvent parce que les hôpitaux sont construits sur des étages, on dit on n'arrive pas à pouvoir entre guillemets, et c'est un terme qui est pas très bien pensé, qui dit on n'arrive pas à placer un patient. Donc il y a aussi des problématiques là. Ce qui a été décrit comme situation aux urgences, nous on le vit aussi, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des vraies problématiques liées aux attentes et donc à la difficulté de prise en charge des patients et des entre guillemets des urgences réelles et pas que uniquement du tout venant. Il y a la problématique aussi de la crise sociale, comme ça a été très bien dit. On est dans un pays qui traverse une crise sociale importante et les urgences souvent représentent aussi un point d'accueil pour toutes les personnes en souffrance psychique, morale, sociale. Et donc, il y a une question à se poser sur comment mieux venir en aide à ces personnes-là, peut-être en dehors des services. Je continue sur ce point-là. Ensuite, là, on parle des urgences. Monsieur Valtou a dit, c'est un problème du système de santé, certes, mais ça, c'est un peu une façon de noyer le poisson. Il y a une vraie problématique de l'hôpital public, une vraie problématique du financement de l'hôpital public, comme ça a été dit. Il y a une problématique de... Je vais répondre pour Olivier Véran.
Oui, mais
de la gouvernance. Mais j'arrive, il y a une problématique de la gouvernance de l'hôpital public, parce qu'aujourd'hui, les soignants sont complètement exclus de la gouvernance, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises à l'hôpital public comme aux urgences ne sont pas des décisions qui sont concertées.
Est-ce que les médecins urgentistes adhèrent au syndicat Jeunes Médecins que vous présidez? Vous avez des médecins
urgentistes? Oui, bien sûr, on a des urgentistes chez Jeunes Médecins. Nous, on est quand même sur une logique transversale, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut avoir une vision qui aille au-delà, qui englobe certes les urgences, mais je rappelle qu'il y a encore peu de temps, les soignants dans les hôpitaux psychiatriques, parce que moi je suis psychiatre, étaient aussi en grève pour des problématiques similaires, des problématiques de moyens. Et je pense qu'il y a d'autres endroits, notamment au bloc, etc., où il y a des difficultés de moyens. Là, on est au bout d'une logique qui dure depuis 20 ans. Alors, la proposition dont vous avez parlé, qui est celle d'Olivier Véran, c'est-à-dire que vous voyez, on est toujours dans des logiques comptables. C'est-à-dire qu'on se dit, on file une enveloppe, on file un package à l'hôpital public quand il reçoit des urgences, package dont il a besoin, parce qu'il est toujours dans une logique de financement. On dit, on va réorienter. Alors l'hôpital va dire, attendez, là vous nous enlevez de l'argent, déjà qu'on est en déficit, comme ça a été dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc Olivier Véran dit, attendez, on va quand même vous donner du pognon pour pouvoir réorienter les gens, parce que comme ça, certes, vous ne toucherez pas l'intégralité de l'enveloppe, mais vous toucherez quand même un petit peu de l'argent.
Pour réorienter les gens vers les médecins, estime que c'est plus adapté.
Exactement, et comme ça a été dit, il y a une question aussi de la médecine de ville, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on dit qu'on va réorienter, mais si derrière, il n'y a personne pour réorienter, on va pas réorienter dans le désert. Et donc la question, c'est quel va être le support pour la réorientation? Et nous, on a très peur avec ce qui se passe, notamment dans certains grands établissements de santé, à ce que ce soit des logiques financières et comptables, encore une fois, des boîtes privées qui se servent de la réorientation. Et les boîtes privées, généralement, ça commence pas cher, et puis tout peu à peu, quand ça le monopole, ça augmente ses prix, et ça va pas permettre d'améliorer le déficit et la situation financière des établissements. Donc, effectivement, la question est-ce que cette logique de tarification est la bonne à l'hôpital public, parce qu'on est au bout du bout, et Madame Buzyn a dit qu'elle allait revenir sur ce qu'on appelle la T2A, mais finalement on revient pas tant que ça dessus. Et l'autre problématique majeure est aussi celle de la gouvernance. Il faut que les soignants soient partie prenante des décisions du programme, des programmes de soins, des programmes médicaux à l'hôpital public.
Alors, prenons les choses les unes après les autres, parce que vous avez évoqué beaucoup de sujets, Emmanuel Loeb. D'abord, est-ce qu'il serait cohérent d'appréhender la question du financement de l'hôpital, du problème des urgences, de façon locale, par territoire, parce que c'est encore ce qu'on a pu entreapercevoir dans le communiqué du ministère hier, qui dit que les solutions apportées ne sont pas les mêmes sur tout le territoire, entre certains établissements qui manquent de personnel paramédical, d'autres de postes qui sont ouverts mais qui n'arrivent pas à recruter, d'autres encore se plaignent davantage de la vétusté des locaux. Est-ce qu'il faut prendre les problèmes les uns après les autres, Fanny Vincent ? Enfin, je veux dire, localement, établissement par établissement.
Je ne sais pas s'il faut prendre les problèmes d'un point de vue local. Ce qui est sûr, c'est en effet qu'il y a des disparités selon les territoires, selon la taille des établissements, parce que l'hôpital public, on parle de l'hôpital dans sa singularité, mais il y a aussi un certain nombre de différences en fonction de la taille des établissements, en fonction des régions, est-ce que ce sont des régions rurales, urbaines, etc. Mais il y a quand même des problématiques qui sont des problématiques nationales et sur lesquelles il faut que le ministère engage une réflexion et des moyens.
Si je vous pose cette question, c'est notamment parce que dans cette lettre du personnel de l'hôpital, alors c'est sur les médecins, spécifiquement de l'hôpital d'Aulnay, en région parisienne, que j'ai lue tout à l'heure en début d'émission, elle suggère cette lettre que soit créée une zone médicale prioritaire pour avoir plus de moyens, comme si l'hôpital d'Aulnay pouvait devenir un hôpital ZEP, en disant, en singularisant les choses. Est-ce que vous pensez que cet appel des médecins à créer des hôpitaux ZEP sont une bonne façon d'appréhender le problème?
Peut-être, c'est vrai qu'il y a des territoires qui sont des déserts médicaux où là il y a des problématiques qui se posent de manière accrue en termes d'accès aux soins et d'accessibilité aux médecins. Donc il y a des territoires dans lesquels il faut investir plus que dans d'autres, c'est certain.
Et de démographie médicale, puisqu'en l'occurrence c'est un des nœuds du problème et vous avez l'occasion d'en discuter tout de suite, puisque à Aulnay-sous-Bois par exemple, le chef du service ORL dit que la Seine-Saint-Denis n'attire pas, mais surtout un vacataire qui est payé 1200 euros pour une garde n'a aucune raison de passer en CDI pour 4000 euros par mois. C'est aussi une question de pénurie de médecins, de pénurie de personnel soignant, Emmanuel Loeb.
De pénurie, ça c'est certain, puisqu'effectivement, mais que ce soit à l'hôpital ou à la ville, les départs à la retraite sont plus importants que les arrivées pour le moment, donc forcément on est dans un creux démographique. Encore que on aurait pu réfléchir à profiter de ce creux pour pouvoir proposer des solutions telles que le transfert de compétences et voir comment d'autres acteurs peuvent prendre part plus important dans la prise en charge des patients, c'est un point. Ensuite, la pénurie, en fait, la question aussi, c'est quel est l'outil de travail. C'est-à-dire que si votre outil de travail est complètement dégradé, forcément, il n'est pas attractif en tant que tel. Les médecins, je pense, et les soignants, beaucoup, pendant leurs études, côtoient ce futur outil de travail, puisque beaucoup des études sont faites à l'hôpital public, ils s'aperçoivent des problématiques de conditions de travail. Donc forcément, une fois les études terminées...
Allez-y, toussez un coup.
Une fois les études terminées...
Attendez, reprenez votre souffle. Je vais m'adresser en attendant à Hugo Houllon, parce que sur la question des médecins urgentistes, je voudrais savoir si dans votre combat, le collectif interurgence que vous présidez, est-ce que les médecins urgentistes sont avec vous? On sait que très longtemps, et je pense que ça rejoint le sujet de ce soir, très longtemps on a dit des médecins hospitaliers qu'ils se sentaient parfois tout puissants, parce qu'ils se savent désirer, qu'ils imposent leurs conditions, leurs tarifs, notamment pour les médecins intérimaires. Quand on fait appel à eux, ils ont qu'à dire moi, si vous me payez pas très bien, je vais dans la clinique privée d'en face. Donc, est-ce que dans ce combat-là, en ce moment, et notamment cet été, vous êtes ensemble sur ce combat-là, Hugo Huon?
Oui, alors, il y aurait plein de choses à dire sur la nouvelle gouvernance, sur le débat organisation moyen. Il y a énormément d'éléments là-dedans. Sur la question des médecins urgentistes, d'abord, il y a un arrêté pour les gardes, pour encadrer le tarif de la garde, un arrêté qui n'est pas respecté par les médecins et par les directions de l'établissement.
C'est-à-dire, ils demandent plus?
Agnès Buzyn dit c'est encadré, c'est à tel tarif, et si jamais vous payez plus, on vous sanctionne. Sauf que personne ne fait remonter ces informations-là, puisque de toute façon, il y a un manque de médecins.
Il faut avoir des médecins. Okay. Donc.
Sur la question du combat social qu'on a eu, là, l'idée à la base c'était de mettre les médecins à l'écart pour ne pas se faire phagocyter, pour ne pas se faire bouffer par des gens qui ont des compétences en communication qui sont plus faciles que les nôtres et qui auraient des revendications qui passeraient au-dessus de celles des soignants, qui sont quand même des acteurs de première ligne et qui, en souffrance en permanence. Alors, je ne dis pas que les médecins ne le sont pas, mais il y a quand même quelques différences. Là, à l'heure actuelle, les médecins urgentistes vont rejoindre le mouvement et demande aussi une revalorisation salariale. Alors, il y a un enjeu de classe là-dessus quand on regarde, parce que finalement, ce qu'ils demandent, c'est une augmentation de, ça équivaut à 1 500, 2 000 euros par mois net. On se dit, bon, nous, paramédicaux, ça fait 5 mois qu'on est sur le mouvement de grève, qu'on se bat pour 300 pauvres euros en plus par mois.
On vous en a accordé 100 pour l'instant.
Et là, ils arrivent et vont probablement avoir ça. Alors, c'est un enjeu de classe où on se dit, c'est quand même dommage. Encore une fois, les paramédicaux se font écraser. Mais en même temps, il y a cet enjeu d'attractivité qui est réel et objectivé. On a du mal à pourvoir des lignes de garde.
Frédéric Valtoux et puis Emmanuel Loeb qui avaient repris votre souffle.
Oui, sur le conflit social actuel, c'est vrai qu'il touche le service des urgences, mais je pense qu'il y aurait une erreur à considérer uniquement la question des urgences indépendamment de la question de l'hôpital. Parce que les urgences, c'est un service de l'hôpital. Et que ce que vivent les personnels dans les services d'urgence, les personnels de tous les hôpitaux, de tous les étages de l'hôpital le vivent aussi. La difficulté, la qualité de vie au travail, l'activité, la pression, etc. Les économies, la pénurie de médecins, la pénurie de professionnels au sens large dans certains métiers, tout ça touche tous les services. Donc, je sais bien que parfois les syndicats se battent pour, j'allais dire, leur chapelle, mais je pense qu'on aurait tort de vouloir déconnecter et considérer à part la question des urgences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la question que vous avez abordée des intérimaires. Moi, je les appelle des mercenaires, parce qu'aujourd'hui, c'est des comportements quand même de flibustiers. On va au plus offrant. On va au plus offrant, et parfois même, d'ailleurs, entre médecins, on se conseille pour aller vers les hôpitaux qui ne respectent pas la réglementation. Ou plutôt, on dit les hôpitaux qui respectent la réglementation pour dire aux médecins, évitez de façon d'aller vers cela, parce qu'eux, ils respectent la réglementation. On est tombé sur des chaînes de mails entre médecins qui sont stupéfiantes. Donc, je dis pas que c'est la majorité des médecins. Mais je dis qu'aujourd'hui, le système devient fou, où effectivement, pour faire tourner un hôpital, qui a des missions de service public à fournir, quand vous avez à accueillir les patients qui se présentent, vous pouvez pas dire, moi, j'ai pénurie de médecins, je ferme la maternité pendant 15 jours et débrouillez-vous, allez accoucher ailleurs, c'est pas possible.
Emmanuel,
et donc on va vers des intérimaires qu'on paye à prix d'or, et effectivement si certains ne respectent pas la réglementation, c'est pas parce que ça les amuse de payer 4000 euros quand ils pourraient payer que 2500 ou 3000 euros, c'est simplement parce qu'en face ils ne trouvent pas de médecins qui acceptent d'appliquer la loi et qui ne trouvent que des médecins qui leur disent moi je viens mais à mes tarifs.
Emmanuel Loeb, il faut que le syndicat des jeunes médecins fasse un code de bonne conduite pour que les médecins ne profitent pas de la pénurie pour pratiquer des tarifs exorbitants.
Je pense que déjà, il faut bien savoir quelles sont les motivations de quelqu'un qui fait médecine. Médecine, on fait pas ça pour gagner des milliers et des cents, sinon on aurait pu faire plein d'autres métiers, du commerce, peut-être, l'ingénierie, etc.
On
ne
remet pas en cause la volonté des médecins de soigner les gens.
Il faut pas commencer à rentrer dans cette logique de vouloir pointer du doigt une question, on va dire, uniquement financière, en disant, il y en a qui respectent pas. Encore une fois, il y a une problématique peut-être du nombre de médecins dans certains hôpitaux. Il y a aussi la question, on peut se poser la question sur est-ce que certains établissements, dans leur mode de recrutement, le font de manière assez pertinente. Là aussi, on peut se poser la question, et que de toute façon, ce sont des établissements qui sont en déficit de manière systémique. Donc, de toute façon, personne ne veut aller sur cet établissement puisqu'il faut y mettre les moyens. C'est-à-dire que tant que vous ne mettrez pas les moyens de manière globale, ça a été
c'est
dit.
C'est un cercle vicieux.
Forcément, juste un autre chose aussi, ce qui est très important, c'est qu'il ne faudrait pas penser qu'on puisse morceler les combats de chacun. Encore une fois, on est tous solidaires, on connaît très bien quelle est la situation de l'ensemble des soignants, notamment aux urgences, et il faut faire très attention à ce que le ministère ne fasse pas la fameuse règle de diviser pour mieux régner, en disant on va aller dans tel ou tel hôpital ou dans telle ou telle spécialité pour revaloriser, et puis après, ça permet de diminuer la tension et de baisser le feu médiatique.
Fanny Vincent, est-ce que la suppression du numerus clausus, qui est une des grandes réformes qui vont se mettre en œuvre dans les mois qui viennent, va aussi former des médecins hospitaliers? Et est-ce que ça va, vous qui connaissez très bien la question de l'organisation du travail dans l'hôpital, mais est-ce que ça va à terme soulager le travail des infirmiers et des aides-soignants? Est-ce que c'est le même... ça participe du... Oui ? C'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas vraiment encore par quoi va être remplacé le numerus clausus, ni comment est-ce que cette suppression va être mise en œuvre.
Tout sera décidé par ordonnance dans les mois qui viennent. Donc
pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Donc c'est un peu difficile pour moi de vous dire ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que sur la question des médecins, le collectif Interurgence a eu d'une certaine façon raison en fait au début de vouloir repousser les médecins, dans le sens où c'était seulement eux qui parlaient et qui ont lancé le mouvement de grève, mais la ministre de la Santé dès le départ ne s'est adressée en fait qu'aux urgentistes médecins et n'a considéré que des revendications comme émanant des médecins. Il y a eu un certain mépris de la part de la ministre au début de ne pas considérer les paramédicaux et le collectif, donc ça prouve bien que vraiment là il y a une confusion et elle a résumé en fait le problème des urgences à un problème de démographie médicale.
Elle ne parlait par exemple jamais des brancardiers, brancardières, des ambulanciers, ambulancières. Hugo Huon, est-ce que c'est aussi parce que votre mouvement, le collectif Interurgence, s'est beaucoup fait en dehors des syndicats aussi, les syndicats historiques? Agnès Buzyn a mis du temps à prendre la mesure de la colère des grévistes et de ce qui se passait dans les hôpitaux.
Je ne sais pas si c'est en rapport avec la relation qu'on a en entretien avec les syndicats. Je pense que c'était le premier conflit social qu'avait Agnès Buzyn sur son quinquennat et qu'elle n'était pas en capacité de bien le gérer. Elle a mis des mois à réagir, c'était beaucoup trop tard. Maintenant, le mouvement est installé, tant mieux pour nous.
Elle devra, Agnès Buzyn, dès la rentrée, annoncer, dit-elle, les nouvelles mesures issues des premières recommandations d'un rapport encore en cours sur les structures d'urgence rédigé par le chef du SAMU à Paris, Pierre Carly, et le député La République En Marche, Thomas Meynier. Hugo Huon, vous êtes de ces réunions-là, le collectif Interurgence? Vous êtes de la réflexion sur la rénovation, la réforme des urgences?
Alors, sur la mission nationale, on avait été invité à la réunion de lancement où chacun s'exprimait, mais il n'y avait pas vraiment, c'était une présentation, il n'y avait pas de tour de table de réflexion, d'organisation. Ensuite, nous, on est reçu le 2 septembre et on est invité à émettre par écrit nos recommandations. Donc là, on a lancé un appel à l'ensemble des paramédicaux du collectif Interurgence en disant « faites émaner vos idées, on va les coucher par écrit, puis on va voir ce qui va en sortir ». Mais on invite aussi les gens du médico-social, enfin d'autres personnes qui sont auxquelles peut-être le corps médical pense moins que les paramédicaux. Ensuite, je vais juste évoquer un article là, qui est sorti cet été sur la mission nationale où il y avait un petit encadré qui laissait présager de ce qui allait sortir dans le cadre de cette mission. Donc, c'était une refonte du modèle de financement, c'est pas une surprise, ça a déjà été proposé avant. Une refonte des métiers, donc un métier infirmier, c'est pas non plus une surprise et je suis pas sûr que refondre le modèle d'infirmier de pratique avancée pour les urgences soit une réponse.
Et ça voudrait dire quoi en plus, refondre le modèle d'infirmier?
Ça veut dire permettre à des infirmiers de se surspécialiser, de refaire un équivalent master, pour être en capacité d'exercer plus de tâches qui sont plutôt réservées aux médecins ou qui ne sont pas en tout cas dans le référentiel à l'heure actuelle. Et la dernière mesure, c'est une boîte à outils dans laquelle les services pourront venir piocher. Et se dire juste que il y a une mission nationale qui réunit un député, qui réunit le chef du SAMU, qui réfléchit pendant 4 mois pour arriver à une boîte à outils dans laquelle pourront piocher les établissements, bon, c'est un peu la blague quand même.
Fanny Vincent.
Oui, sur cette question de l'extension des compétences des infirmiers, c'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose que revendiquent les syndicats infirmiers depuis longtemps. Par contre, donc c'est pour libérer du temps pour les médecins, notamment, et faire progresser les infirmiers, mais il y a toujours un certain nombre de tâches en dessous, puisque la division du travail médical se fait aussi en cascade, il y a un certain nombre de tâches en dessous qui va toujours falloir faire, et si on ne renforce pas non plus les effectifs des aides-soignants et en dessous des aides-soignants, des agents de service hospitalier, typiquement ce sont les personnes qui sont chargées de faire le ménage, parfois font aussi des tâches de soins, il y a un certain nombre de problèmes qui vont continuer à se poser. Donc il n'y a pas uniquement des actes techniques très pointus à réaliser, il y a aussi les actes de soins de base qu'il faut prendre en charge. Et là, il y a un problème de moyens, parce que ce sont souvent ces fonctions qu'on appelle des fonctions secondaires, de manière assez vilaine, on va dire, qui sont les premières visées par les réformes et dont on a souvent réduit les effectifs.
Et Emmanuel Loeb, les médecins sont prêts à renier sur leurs prérogatives ou à laisser en tout cas d'autres le soin de faire des actes qu'ils estiment peut-être eux-mêmes ne pas avoir le temps de faire?
Je pense que surtout il faut dialoguer, il faut avoir des lieux de concertation, il faut surtout pas justement faire des rencontres bilatérales comme le fait souvent le ministère, à rencontrer les médecins d'un côté, les personnels non médicaux de l'autre. Il faut qu'on puisse discuter entre nous et cette émission était une bonne occasion de pouvoir discuter les uns avec les autres. Ensuite, sur la question quand même de l'intérim médical et de la loi de santé, puisque certaines mesures ont été évoquées ici, je tiens quand même à en évoquer une autre. Il y a une mesure qui a été faite qui dit que les médecins hospitaliers qui décideraient d'avoir une activité qui dite mixte, c'est-à-dire une partie à l'hôpital et une partie en ambulatoire, notamment en privé, serait sous la volonté du directeur qui pourrait dire s'il autorise ou pas dans un rayon de 10 km la personne à exercer. Et donc là, nous, ce que l'on voit, c'est qu'il y a déjà des ébruitements de cette proposition, cette loi qui a été votée. Et donc des jeunes nous disent, bah, attends, est-ce que moi je vais aller à l'hôpital, sachant que derrière, le directeur va pouvoir décider si j'ai le droit ou non de m'installer pour une activité libérale, même dans le cadre d'un exercice mixte. Donc vous voyez, on est quand même en train de vider l'hôpital de nombre de ses soignants. Et là, je parle des médecins, mais je pense qu'il y a plein de mesures comme ça. Et encore une fois, la question qui doit se poser, c'est quel est l'objectif derrière par rapport à ce service public qu'est l'hôpital? Est-ce qu'il y a une volonté de le maintenir et de le renforcer? Ou est-ce qu'au contraire, comme ça a été fait pour d'autres services publics, et on le voit, hein, les enseignants aussi sont en grève. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de l'ensemble des services publics. Est-ce que là, on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait aux enseignants, ce qu'on a fait dans l'énergie? Est-ce qu'on est en train de vider le service public hospitalier de sa substantique moelle? Et en gros, eh ben, demain, il n'y aura plus personne à l'hôpital public et ce sera catastrophique.
Alors, on entend en effet que toutes les professions de l'hôpital sont en train de vraiment se mettre ensemble, ne pas se laisser diviser pour agir ensemble. Et je cite le président de la Fédération des médecins de France, peut-être concurrent de votre syndicat, non, pas du tout des jeunes syndicats.
Tout le monde est ami de toute façon.
Ça. Voilà, qui était sur France Culture il y a quelques mois et qui a fait son mea culpa et qui l'avait fait d'ailleurs publiquement en disant c'est vrai que les médecins ont très longtemps rechigné à accueillir les urgences et qui propose par exemple que plus personne n'entre aux urgences autrement qu'en ambulance ou avec une prescription d'un médecin de ville, Frédéric Valtoux.
Bah, on pourrait imaginer effectivement que les malades, enfin soient obligés de passer par les plateformes qui, finalement, les prennent en charge et fassent un premier filtre.
Oui, mais disent... avec le succès... Enfin, on a vu que ça pouvait parfois être par téléphone, sans voir que ça pouvait parfois être
bien sûr.
Grave.
Ça peut être effectivement... Après, il peut y avoir... Le zéro défaut n'existe pas. Et dans un système qui accueille 21 millions de passages par an, on va toujours trouver le cas qui... Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement... Enfin, faut tuer l'idée qui a été un peu... qui a été invoquée, qui était derrière l'extrait du rapport de la Cour des comptes que vous avez cité. Faut tuer l'idée que les hospitaliers sont contents qu'il y ait un tel afflux aux urgences, qu'ils sont contents qu'il y a un tel afflux aux urgences parce que ça leur amènerait des financements. Je veux dire, ils sont pas devant, c'est pas comme les restaurateurs qui se mettent devant leur pas de porte et qui attendent et qui essayent de faire venir le chaland. Voir 400 000 personnes de plus qui viennent aux urgences chaque année, enfin 400 000 passages de plus qui viennent aux urgences chaque année, je veux dire, ça, c'est plus déstabilisant pour les établissements depuis 10 ans que structurant et uniquement intéressant sur le plan financier.
Et vous avez l'impression qu'on rejette la faute sur le personnel qui accepte les patients?
Le service public, par principe et par nature et par mission, soigne tous les gens qui passent la porte et ne renvoie pas les gens chez eux. Et donc à partir de là, mais par contre, ne vont pas chercher les gens pour leur dire venez aux urgences plutôt que à la clinique d'à côté. Moi, je veux bien qu'il y ait des urgences dans le privé, mais encore faut-il qu'elles soient ouvertes la nuit. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de sélection des patients. Encore faut-il tout ça. Je veux bien que les gens, et sans doute que les gens préféreraient plutôt avoir accès à leur médecin de ville si le vendredi à 20h, ils en trouvaient un ouvert plutôt que d'aller attendre 3 heures aux urgences. Enfin, vous voyez, donc on est dans un système où finalement pèse sur les urgences, je le redis, mais beaucoup des dysfonctionnements du système de santé et que l'affaire des urgences, c'est l'affaire de l'organisation globale. Et c'est pour ça que moi, depuis le début, je plaide auprès de la ministre, mais elle m'a pas beaucoup écouté pour l'instant, que la question des urgences, c'est une question qui doit intéresser aussi la médecine libérale, qui doit être autour de la table pour voir comment elle prend aussi sa part de boulot par rapport
de responsabilité, par exemple, rétablir des gardes obligatoires, Fanny Vincent.
Ça, je sais pas si c'est vraiment une solution. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un problème en termes de démographie médicale aussi. Il y a de moins en moins de temps de médecins libéraux disponibles et eux aussi sont surchargés et ont envie de prendre du recul, de préserver leur vie privée aussi. Et c'est pas uniquement une revendication des jeunes générations comme on l'entend souvent. Ça vient aussi des médecins plus âgés. Mais je voulais réagir sur cette question de la responsabilité des patients dans la crise des urgences. On dit souvent et on entend souvent que si les urgences sont surchargées, c'est parce que les patients viennent aux urgences alors qu'ils n'ont rien à y faire, qu'il faudrait éduquer les patients à l'usage de l'hôpital public, aux urgences, etc. Ça soulève plusieurs points. Le premier qui est il faudrait distinguer en fait quelles sont les vraies urgences des fausses urgences. On dit en fait il faudrait venir uniquement quand c'est des vraies urgences.
Comment on distingue?
Voilà, personne n'est capable de dire quelles sont les vraies urgences. Alors accident de la route, AVC, bon, on a l'impression que les urgences seraient faites uniquement pour ça. Historiquement, c'est pas le cas. Les urgences sont aussi une mission d'accueil et une des détresse sociale peut très vite se transformer aussi en détresse vitale. Donc ça, c'est compliqué. Et renvoyer des personnes des urgences chez elles ou ailleurs, ça implique que ailleurs elles soient prises en charge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les structures sociales, les structures médico-sociales sont complètement insuffisantes pour faire face à des personnes, à l'afflux de précarité, à l'augmentation de la pauvreté, parce que ça, c'est aussi un chiffre qu'il faut mentionner quand on parle de l'augmentation du passage aux urgences. Il y a une augmentation de la pauvreté ces dernières années qui est extrêmement importante, plus 600 000 personnes pauvres en 10 ans. Et l'autre point qu'il faut mentionner sur cette question de la responsabilité des patients, c'est que si les patients viennent là, c'est aussi parce que la médecine de ville n'est pas en mesure de les accueillir, parce qu'il y a eu aussi des déremboursements par la sécurité sociale, les soins de premier recours ne sont remboursés plus qu'à hauteur de 50%. Aujourd'hui, il y a eu des déserts médicaux, on en a parlé. Il y a des délais de prise en charge et de rendez-vous qui sont extrêmement longs. Donc tout ça fait que les patients ne sont pas véritablement responsables de tout ce qui se passe.
Emmanuel Lobe, jusqu'où vous êtes prêt, médecin, à vous laisser mieux encadrer, réguler, vous laisser imposer peut-être aussi des mesures pour qu'à un moment on en sorte de cette crise, quoi, parce que ça fait quand même des années qu'on en parle.
Justement, alors nous on dit plutôt le contraire. En fait, on pense qu'il y a une nécessité d'empowerment, c'est-à-dire qu'il faut savoir se prendre en main. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Monsieur Valtou dit non, les établissements sont pas contents d'avoir un afflux d'urgence. Si, puisque de toute façon leur modèle économique est basé là-dessus. Il faut savoir que les établissements de santé ont ce qu'on appelle un plan de retour à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne normalement on ne supporte pas qu'ils soient en déficit et que comme on est sur une logique de tarification à l'activité, forcément l'objet principal de leur vigilance, c'est savoir quelle est la balance bénéfice-dépense. Donc en fait là-dessus, il faut savoir
Parce que certains actes sont beaucoup mieux tarifés que d'autres.
Mais nous on le voit, moi quand j'ai commencé mes études, peu importe de savoir la raison pour laquelle un patient venait, maintenant on est quand même très vigilant dans tous les services et aux urgences aussi à vouloir faire ce qu'on appelle du codage, c'est-à-dire on dit la raison pour laquelle un patient arrive dans tel ou tel service ou aux urgences et on code en fonction et l'hôpital reçoit plus ou moins d'argent en fonction de ce codage. Et je peux vous dire que dans les services hospitaliers, on est très fortement pressurisé de la part de l'administration pour pouvoir coder. Et ça, c'est du temps médical et du temps soignant en moins. Un autre point aussi, il faut
on arrive à la fin de cette échange, soyez court s'il vous plaît.
On a vu aussi que justement cette logique de tarification fait que l'administration augmente, c'est-à-dire qu'on trouve de l'argent pour payer et financer de plus en plus de postes administratifs, vous pouvez voir, et au contraire, on finance pas ce qui devrait être la mission première d'établissement, à savoir accueillir les patients, répondre à leurs souffrances, et ça se fait par les soignants, et ça se fait pas par l'administration. Donc, à tout craint.
On va demander à Hugo Huon ce qu'il en pense, mais je pense pas que quand un patient se présente à vous aux urgences de la Riboisière, vous disiez d'abord, attendez, est-ce que ça va nous rapporter combien ça à l'acte, ça va rapporter combien à l'hôpital?
Les urgences sont pas financées à l'acte. La
T2A ne concerne
urgences.
Pas les urgences.
Les urgences,
d'accord.
C'est au forfait.
Je pense qu'il faut distinguer, Monsieur Valtou, c'est les directeurs financiers qui sont contents et les médecins ne le sont pas. En gros, parce que ça nous fait plus d'activité, il faut savoir que même aux urgences, une fois qu'on pose le diagnostic, par exemple sur la chirurgie orthopédique, souvent on réoriente dans le privé parce que c'est plus rapide, ça évite d'attendre l'orthopédiste pendant 6 heures. Les cliniques sont hyper réactives et peuvent prendre les gens. Donc nous, on pose le diagnostic, c'est tout bénef pour le privé qui va récupérer le patient, qui est souvent sans antécédent, facile à opérer, et ainsi de suite. Donc il y a un effet de saturation qui est tel qu'on perd de l'argent même à ce régime-là. Si je peux juste rajouter, et ça fera écho au mot du début, c'est que moi, au bout de 5 ans d'exercice, il y a une chose que j'ai appris aux urgences. Contrairement à la mission de service public qu'on peut entendre et l'accueil inconditionnel, c'est que toute vie ne se vaut pas. Et ça, c'est quand même grave en tant que soignant d'en arriver à ce point-là. Il y a des effets de saturation, des effets de sélection qui sont tellement forts. On a tellement de monde qu'on fait des choix dans les gens qu'on va traiter et comment on va les traiter. Et donc là, c'est aux citoyens de se poser la question. C'est qu'est-ce qu'on veut pour le service public
aussi. Vous voulez dire que vous, Hugo Huon, vous-même, vous êtes rendu compte qu'à un moment, vous vous sentiez obligé de penser comme ça?
Ah oui. Oui. L'organisation du travail fait que je pense comme ça à l'heure actuelle. C'est pas normal pour les soignants d'en arriver là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet important et qui vous touche bien sûr tous de très près. Merci Hugo Huon. Vous partez bientôt au Canada, vous installez l'hôpital public français, c'est fini ou pas?
Je sais pas, moi en tant que soignant, si les conditions de travail sont à chier, je peux toujours bouger. Le patient lui a pas le choix, mais oui, je pense que je vais bouger. Ouais.
C'était la conclusion d'un article de Libération, un portrait qui vous était consacré récemment. Merci d'avoir été avec nous ce soir, ainsi que vous, Fanny Vincent, dont je rappelle les références de votre livre et rappelez-vous même la case du siècle.
Voilà, avec Frédéric Pierru et Pierre-André Juvel.
Merci beaucoup Emmanuel Loeb, président du syndicat des jeunes médecins, ainsi qu'à vous Frédéric Valtoux, Fédération des hôpitaux de France. Merci à l'équipe du Grain Mood d'été, Stéphanie Villeneuve, Léa Capuano, Aliette Ovine, Roxane Poulain et Valentin Berg.